grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Il est temps de faire un effort pour la parité du cœur. On dirait un peu un slogan politique ou peut-être une réplique de comédie romantique. Eh bien non, je vous parle de santé. Le cœur des femmes mérite notre attention. Quand il est question d'infarctus, on pense spontanément à un homme entre 50 et 60 ans. Pourtant, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès des femmes. Et les symptômes ne sont pas toujours les mêmes que chez les hommes. Alors parlons ce matin des spécificités du cœur féminin, de dépistage et de prévention, des facteurs de risque surtout. Quelle hygiène de vie pour prendre soin de son cœur? On évoquera aussi la recherche en matière de santé cardiaque, dont les femmes sont les grandes oubliées. Longtemps, les travaux de recherche pour des nouveaux traitements ont été menés sur les hommes seulement. Oui, décidément, il est temps de faire un effort pour la parité du cœur. J'attends vos témoignages, vos questions, vos réactions par téléphone au 01 45 24 7000 via le site de France Inter ou sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Émission en partenariat avec Cosette. Isabelle Motreau, la directrice de la rédaction, est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Dorothée.
Femme au bord de la crise cardiaque, un article à lire dans le dernier numéro de votre magazine qui sera en kiosque.
Qui sera en kiosque mercredi.
Après-demain. Et on retrouvera bien sûr Baptiste Beaulieu, comme tous les lundis. Bonjour Baptiste.
Bonjour Dorothée.
Le médecin généraliste préféré de Grand Bien Vous Fasse en duplex de Toulouse ce matin. Alors voilà Baptiste, le jour où Ali Rebeyi est remplacé par Ma Pomme, vous nous racontez une histoire de remplacement?
Oui, et puis d'amour aussi. On va parler un petit peu d'amour et de la manière dont il ne faut pas non plus toujours tout donner à l'autre.
Et vous intervenez quand vous le souhaitez sur notre sujet du jour. Bienvenue à tous et à toutes.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Dorothée Barba.
Deux médecins sont avec nous en studio, la présidente de la Fédération Française de Cardiologie, Claire Mounier-Veillé. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes chef de service à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille et vous publiez aux éditions Marabout un livre intitulé « Mon combat pour le cœur des femmes ». Agir avant qu'il ne soit trop tard. Jean-Noël Fabiani est là également, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou, tout jeune retraité je crois. Voilà, votre dernier ouvrage est une bande dessinée qui raconte, ça ne se voit pas évidemment, l'incroyable histoire de la médecine avec des dessins signés Philippe Bercovici, c'est aux éditions Les Arènes BD. Une question toute bête pour commencer, le cœur des femmes est-il différent de celui des hommes, Claire Mounier-Veillé?
Alors le cœur des femmes est un peu différent, il est déjà plus petit, avec des artères plus fines, et surtout, il a une façon de fonctionner qui est un petit peu différente de celle des hommes, effectivement. Et c'est toutes ces différences anatomiques et physiologiques qu'on doit prendre en compte pour mieux les soigner.
La question est-elle saugrenue, la différence du cœur des femmes, Jean-Noël Fabiani?
Elle n'est pas du tout saugrenue, et le fait que le cœur soit plus petit et que les artères soient plus fines va poser des problèmes techniques pour ceux qui vont s'y intéresser, que ce soit des chirurgiens ou bien des cardiologues. Interventionnel, le fait de travailler sur des artères plus petites, eh bien c'est plus difficile. Et les hommes sont différents des femmes. Il y a des gens qui disent non, on se compare. Non, ils sont différents. Il ne faut pas simplement que cette différence se change en inégalité.
Isabelle Motreau, vous l'écrivez, hein, enfin, on le lit dans Cosette, cette manie de tout scinder entre les hommes et les femmes, ça peut être un peu agaçant. Une crise cardiaque, c'est une crise cardiaque, non?
Et non, mais
eh bien non.
Non. Et non, justement, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Je crois que nos spécialistes vont acquiescer. La crise elle-même... Oui, mais les symptômes sont très différents.
Il y a aussi beaucoup de préjugés en la matière. C'est là que c'est intéressant.
Ben oui, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que les femmes meurent ou soient atteintes de crise cardiaque. C'est vrai qu'on a plutôt, vous le disiez, l'impression que ça touche les hommes un peu entre 50 et 60, un peu pas trop sportifs, etc. Et en fait, c'est la première cause de mortalité féminine, quand même.
C'est sans doute par les préjugés, justement, qu'il faut démarrer, Claire Mounier-Veillé. Oui, si une femme se présente chez le médecin en disant « j'ai une douleur thoracique », on va lui prescrire des anxiolytiques. Si c'est un homme, on va lui dire d'aller voir un cardiologue. Enfin, je caricature ou c'est
non,
la
non,
réalité
c'est... Enfin, c'est pas toujours comme ça. Je fais aussi attention à nos auditeurs. Tous les médecins ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'on a appris la médecine sur des symptômes masculins et qu'il faut faire bouger nos pratiques professionnelles. C'est l'objet de nos présentations au congrès médicaux. J'ai ouvert le livre avec des verbatims pris sur Facebook à l'occasion de la sortie du film Préjugé de la Fédération de Cardio. Et effectivement, maintenant je vois quasiment plus que des femmes en consultation, et beaucoup d'entre elles viennent me voir en me disant « j'étais essoufflée, j'avais une fatigabilité à l'effort, j'étais épuisée depuis quelques mois, et mon médecin ne m'a pas cru ». Et donc, j'ai vraiment insisté, parce que j'ai vu à la télé, j'ai entendu à la radio, j'ai voulu un bilan cardiovasculaire. Donc, je pense que la femme est capable de connaître son corps et de reconnaître les symptômes différents de d'habitude, et d'insister, mais pour aussi rassurer nos auditeurs, c'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme fumeuse, c'est la femme qui a du cholestérol, c'est la femme qui est stressée, qui est sédentaire, une femme qui n'a aucun facteur de risque et qui n'est pas ménopausée. Hormis certains cas rares, de dissection coronaire après l'accouchement, c'est très très rare qu'une femme fasse un infarctus avant 50 ans.
Jean-Noël Fabiani, vous allez dans le même sens. Il y a des préjugés, y compris chez les soignants en la matière.
Alors il y a des préjugés. Alors revenons un petit peu sur un peu d'histoire de la médecine. Une très grande étude qui a été très importante pour la cardiologie est l'étude de Framingham. Elle a commencé en 1948, où une petite ville des États-Unis, de 10 000 habitants à peu près, a été suivie pendant, elle est toujours suivie aujourd'hui, donc pendant plus de 70 ans. Et cette étude a été très importante parce qu'elle s'intéressait aux facteurs de risque de la maladie du coronaire, c'est la maladie du cœur. Donc, c'est eux qui ont démontré que le cholestérol, le tabac, le diabète, ainsi de suite, avaient une importance. Mais on s'est intéressé à quoi? Mais on s'est intéressé à l'homme. On s'est pas intéressé aux femmes. Autrement dit, toute cette étude a été menée en ayant comme cible celui dont parlait Claire Monéveillé il y a un instant, l'homme de 50 ans. Et la femme a été totalement oubliée. Il faut dire aussi, pour être juste, que la femme de 1948 ne vit pas tout à fait comme la femme de 2018.
Elle fume plus, vous voulez dire, par exemple.
Elle fume plus, elle est beaucoup, la femme de 2018 est beaucoup plus active, elle mange de façon différente, elle n'est pas à la maison, enfin bon, il y a des tas de choses qui font que la femme a changé elle-même. Alors, pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on a dit? La femme, elle est protégée par ses œstrogènes. C'est une étude épidémiologique, on s'apercevait bien que les femmes ne faisaient pas trop de problèmes avant 50 ans. Mais, en fait, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'on en est, en fait.
Ouais. On a longtemps cru, effectivement, que les femmes étaient protégées par leurs hormones, Claire Monnier-Veillet.
Je voulais compléter ce que disait Jean-Noël. Les facteurs de risque classiques que tout le monde connaît, tabac, stress, cholestérol, hypertension, diabète, sont beaucoup plus toxiques sur une artère de femme que sur une artère d'homme. C'est effectivement l'étude américaine Interheart. Et inversement, l'hygiène de vie, c'est-à-dire manger bien, peu salé, pas fumer, faire de l'activité physique, ça protège plus une artère de femme qu'une artère d'homme. Donc ce qui est mauvais est plus mauvais, ce qui est meilleur est meilleur. Et là-dessus se rajoute, par rapport à un homme, ce que n'ont pas les hommes, c'est les spécificités hormonales du risque. La contraception avec oestrogène de synthèse, les risques thrombotiques, donc excusez-moi, fabriquer des caillots sanguins pendant la grossesse, un placenta de mauvaise qualité va donner de l'hypertension, et après, effectivement, la perte des oestrogènes au moment de la ménopause. Donc pour être synthétique, ces facteurs de risque classiques, effectivement, leur effet toxique n'arrive pas à être contrebalancé par l'effet protecteur de nos oestrogènes naturels.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être particulièrement vigilante au moment de la première contraception,
ou du renouvellement,
au moment de la grossesse et au moment de la ménopause.
Tout
c'est vraiment trois.
C'est
un moment clé de la vie
hormonale,
d'une femme.
Tout à fait.
Isabelle Montreau. Et comment vous l'expliquez que ce soit tout ce qui est plus néfaste et tout ce qui est néfaste et plus néfaste, tout ce qui est bon et meilleur sur
Alors,
les
Alors, c'est
femmes.
Des études de registre observationnel. C'est de l'épidémiologie clinique. On regarde les caractéristiques des femmes et des hommes qui viennent à l'hôpital pour un premier infarctus, où il y a la même étude pour interstroke pour le premier AVC. Et c'est un constat de voir que l'association entre le facteur de risque et le survenu de l'événement est plus puissant chez une femme que chez un homme. Ce qui est très important, c'est que le stress, la précarité, ces facteurs de risque psycho-comportementaux qui émergent aujourd'hui ont un effet toxique beaucoup plus délétère chez la femme que chez l'homme.
Est-ce qu'on connaît la proportion de maladies cardiovasculaires qui pourraient être évitées avec un comportement adapté, Jean-Noël Fabiani?
Oui, bien sûr, on le connaît.
C'est une majorité?
À peu près 80%.
Allez-y, Claire Monnier-Veillet,
Claire
si
me
vous
souffle,
le savez.
Heureusement, c'est qu'elle me dit 80%. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très important.
Claire Monnier-Veillet.
Alors que c'est que 40% pour le cancer. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que
80% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées avec une hygiène de vie différente.
Versus 40% pour le cancer. Ça veut dire que les deux maladies sont liées par l'hygiène de vie, mais le poids de l'environnement est beaucoup plus puissant sur la maladie cardio-cérébrovasculaire.
Le poids de l'environnement, c'était
dire. C'est-à-dire. Comme là maintenant, être assise, être stressée, fumer, mal manger, tous ces facteurs, notre environnement, et voilà, on s'est émancipé, mais notre émancipation, on la paye quand même très cher aujourd'hui.
Première cause de mortalité chez les femmes, hein, on le disait à l'instant, les maladies cardiovasculaires. Est-ce que les femmes le savent, à votre avis? Est-ce que le grand public est au courant de la dangerosité de ces maladies?
Non, absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui encore, pourtant, il y a un certain nombre de personnes qui en parlent beaucoup. Claire en est certainement le leader, mais beaucoup de personnes parlent actuellement de ce problème chez les femmes. Eh bien, encore, quand on parle d'un infarctus chez une femme, surtout chez les jeunes, tout le monde a l'impression de tomber des nues. Or, en fait, c'est une réalité et de plus en plus fréquente. Évidemment, le changement comportemental des femmes intervient énormément là-dedans et le dogme de la prévention par les œstrogènes, eh bien, part progressivement en fumée.
Je serais curieuse de savoir quelle réaction vous avez eue, Claire Mounier-Veillé, lorsque vous avez créé à Lille un parcours de soins cardiaques réservé uniquement aux femmes. Est-ce que vous avez rencontré quelques hostilités dans votre milieu professionnel ?
Bah, je vais pas dire non, je m'en
non,
dirai.
Je peux pas.
Il m'a fallu beaucoup de persuasion, beaucoup de séduction pour arriver à ça. Mm-hmm. On parle plutôt de gynécardiologie ou de la, voilà, un parcours cardio-gynécologique dans lequel est impliqué le médecin traitant. Et autant les gynécologues ont adoré le projet tout de suite, et ce sont aussi des médecins de soins primaires. Mm-hmm. Les médecins généralistes adhèrent aussi. Mais c'est vrai que dans mon pôle cardiovasculaire pulmonaire, il a fallu convaincre, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu veux différencier les hommes et les femmes? C'est la même chose. Mais c'est vrai que très tôt dans ma carrière professionnelle, j'ai été proche de la gynécologie et de l'obstétrique par rapport à ses spécificités hormonales. Et finalement, petit à petit, ils adhèrent au projet, mais encore, il y a encore des femmes qui viennent aux soins intensifs pour un premier infarctus, et on ne pense pas forcément à leur demander quel est leur mode de contraception quand elles ont moins de 45 ans. On a fait une fiche hormonale de notre service, et on a un dossier spécifique femmes, et on écrit systématiquement aux gynécologues, et on s'aperçoit que ces pratiques professionnelles ont permis d'identifier 30% supplémentaires de femmes qui avaient une maladie cardiovasculaire athéromateuse, et c'est pas un diagnostic pour faire joli, c'était derrière leur proposer un traitement adéquat, une stratégie thérapeutique, de la rééducation, on a réajusté des contraceptions, et on a aussi découvert des cancers gynécologiques, parce qu'il y avait des femmes qui avaient plus de suivi gynécologique, notamment les précaires, et on a découvert des cancers du sein, des cancers de l'endomètre, parce qu'on était dans cette prise en charge globale de la femme.
Voilà. Votre livre est truffé de témoignages et d'exemples de femmes qu'on a laissé patienter des heures aux urgences ou qu'on a renvoyées chez elles en leur disant « reposez-vous, ça ira mieux » et qui présentaient tous les symptômes de maladies cardiovasculaires très graves. C'est évidemment pour faire cesser ce genre de comportement que vous avez écrit ce livre.
Oui, c'est pour faire cesser. Je suis intimement convaincue que la prévention positive citoyenne passe par le français et la française. Quand je fais des conférences cœur de femmes, j'en ai fait une cinquantaine sur toute la France. C'est très intéressant parce qu'à ces conférences, il y a autant d'hommes que de femmes. Et lors d'une conférence à Paimpol, il y a à peu près un mois et demi, il y a une dame à la fin de la conférence qui a levé la main et qui m'a dit « Madame, vous m'avez sauvé la vie parce qu'il y avait une émission enquête de santé sur le cœur des femmes. J'ai compris les symptômes, je suis allée me faire dépister, j'ai eu des stents coronaires. » Bah, quand vous avez ça, bah, voilà, vous avez gagné votre soirée, c'est super, c'est génial.
Allez, on attend vos témoignages, vos questions sur franceinter.fr à la page de Grand Bien vous fasse, sur la page Facebook de l'émission ou par téléphone, vous connaissez le numéro 01 45 24 7000. Et voici les Rita, ça fait du bien un lundi matin après un long week-end. Vous êtes sur France Inter.
Le grain, c'est juste pendant.
c'est comme ça, Lerita Mitsuko sur France Inter. On parle du cœur des femmes ce matin dans Grand Bien vous fasse, la santé cardiovasculaire des femmes qui fait l'objet de beaucoup de préjugés qui engendrent des retards de diagnostic. Une émission en partenariat avec le magazine Cosette. Isabelle Motreau, directrice de la rédaction de Cosette, est avec nous, ainsi que Jean-Noël Fabiani, chirurgien cardiaque, et Claire Mounier-Veillé, cardiologue, chef de service au CHU de Lille.
Dorothée Barba, Grand Bien vous fasse. Sur France Inter.
Bonjour Hélène. Montre-moi tes mains, s'il te plaît. Je vais te citer différents thèmes et j'aimerais que tu les joues immédiatement.
D'accord.
On te fait une demande en mariage. Parfait. Et alors là, c'est la rupture. Il te quitte. Ok, c'est très bien. Et maintenant, on passe à l'orgasme.
À quoi ?
À l'orgasme. Et là, tu as un infarctus. Non, c'est pas ça. Non, ça fonctionne pas. Un infarctus. Non, c'est pas ça. Un infarctus.
Extrait d'un spot de prévention de la Fédération de cardiologie que vous présidez, Claire Mounier-Veillé. Le spot est passé au cinéma et à la télévision. Mmh. C'est un casting hein, avec des comédiennes et elles peuvent tout jouer mais sont incapables d'interpréter l'infarctus. Vous me disiez hors antenne que c'est un vrai casting avec de vraies comédiennes qui ont été piégées pour l'occasion.
C'est un vrai casting, c'est-à-dire qu'on a demandé à un certain nombre d'actrices de mimer ces différentes scènes avec la fille qui devait les embaucher pour un film potentiel. Mmh. Et ce qu'on voit sur le film, c'est vraiment une réaction nature des femmes qui ne savaient pas que c'était pour un film pour la Fédération Française de Cardiologie.
Alors il faut décrire un petit peu la scène, quand on leur demande de mimer l'infarctus, elles se mettent la main au cœur.
Alors elles se mettent la main sur la poitrine parce qu'elles ont connu ça, parce qu'elles ont peut-être vu les séries médicales, hein, les séries télé, c'est possible. Mais elles se prennent la poitrine, donc la réalisatrice leur dit non, ça va pas, donc on voit qu'elles se mettent à stresser parce qu'elles comprennent pas. Elles se disent zut, si je fais pas bien la scène, je vais pas être prise pour le film. Et effectivement, mais ce signe-là, faut quand même rappeler aux auditeurs qu'il existe aussi pour certaines formes d'infarctus dans un cas sur deux. Il ne faut pas dire que l'infarctus de la femme, il n'y a jamais de douleur thoracique, ce serait mentir.
Mais il y a d'autres symptômes qui sont très méconnus, c'est l'occasion de les détailler. Claire.
Alors les symptômes méconnus, c'est essentiellement, c'est les symptômes qui vont et qui viennent dans le temps. Mm-hmm. Parce que la maladie athéromateuse, donc ces petites plaques d'athérome dans les artères, sont différentes avant 50 ans. C'est pour ça que les symptômes sont différents. Et également, c'est une maladie, donc on a des grosses artères, Jean-Noël pourra compléter, qui courent à la surface du cœur, et puis qui vont donner des petites routes, puis des petites communales, puis des petites départementales. Et finalement, les petites départementales et les communales s'abîment et se bouchent, et ça donne des symptômes, comme l'essoufflement d'effort, une fatigabilité à l'effort. Ce sont des femmes qui sont épuisées, qui peuvent aussi avoir une douleur entre les deux omoplates, des douleurs également digestive, parce que l'innervation, je parle sous votre couvert, l'innervation de l'estomac et de l'œsophage est la même innervation que celle du cœur, d'où les symptômes intriqués.
La métaphore routière est très jolie. Jean-Noël Fabiani, donc les symptômes digestifs, ça peut sembler étonnant pour les auditrices, hein. Symptômes digestifs qui ressemblent à des symptômes digestifs, mais qui sont en réalité des problèmes cardiaques.
Absolument. Pour être juste et inversé, l'homme aussi peut venir avec des symptômes digestifs alors qu'il s'agit réellement d'une pathologie cardiaque. Mmh. Parce que l'inverse existe. Mais il est vrai que chez la femme, c'est beaucoup plus fréquent que chez l'homme. Il y a aussi des douleurs de l'épaule, par exemple, de l'épaule gauche. Il y a des douleurs entre les omoplates, comme disait Claire il y a un instant. Enfin bon, c'est une symptomatique.
Mais c'est vrai qu'une patiente n'a pas le réflexe en se disant « j'ai des nausées, des vomissements, c'est peut-être mon cœur ».
Voilà, exactement. Mmh. Et quand elle est essoufflée à l'effort, ce qui est quand même assez fréquent, eh bien, on ne pense pas toujours au cœur.
On a une auditrice qui nous a appelé pour
un très bon symptôme que je vais compléter, c'est que ces symptômes-là, c'est jamais un, c'est souvent associé. Et un symptôme très important, c'est l'angoisse. Mmh. Elles ont une espèce d'anxiété croissante par rapport aux symptômes. Et il y a un moment donné, elles ont attendu pour rappeler, parce qu'il y avait le mari qui ne savait pas se faire cuire un œuf. Le lendemain, il fallait qu'elles aillent au boulot et leur chef allait leur dire, si t'es pas là, c'est pas bon. Et à un moment donné, elles ont tellement peur qu'elles signalent et qu'elles appellent.
Des études ont prouvé d'ailleurs que les femmes tardent toujours plus que les hommes à réagir face à des symptômes.
Entre une demi-heure et trois heures, et on a deux heures pour revasculariser une grosse coronaire.
Et c'est tout le problème de l'intervention.
On est en ligne avec une auditrice. Bonjour Anna.
Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette émission.
Merci à vous de nous appeler.
J'ai 55 ans, je suis ménopausée depuis 2011. Donc, bouffée de chaleur, etc. Pas de traitement, parce que je peux pas en avoir. J'ai fait en allopathie, en phytothérapie, etc. Mais Bon, alors je fume, j'ai pas de problème de cholestérol, pas de diabète, pas de surpoids, etc. Je marche, je suis tonique, quoi. Mais alors j'ai un problème dès que j'ai des fois j'ai des sueurs et en position allongée j'ai le rythme cardiaque qui bat des fois la chamade. Et de temps en temps ça me fait un gros boom sur le côté gauche, mais un gros boom. Médecin, cardiologue. Mais non, mais ça c'est votre ménopause, c'est rien, tout va bien, c'est votre ménopause. Et puis il faudrait peut-être penser à arrêter de fumer. Voilà, alors tout le monde rigole. Tout le monde rigole.
Et vous vous sentez incomprise, j'ai l'impression.
Vous êtes angoissée, etc. Non, je sens bien qu'il y a un truc bizarre, parce que ces chaleurs et ces sueurs, c'est pas les bouffées de chaleur. Voilà. Tout est mis sur la ménopause, sur l'anxiété, sur ceci, est-ce que vous avez des soucis? Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Anna. Je vais faire réagir nos invités. Jean-Noël Fabiani, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre ?
Bien, je réagis de la façon suivante. Évidemment, cette dame décrit des symptômes qu'il est trop facile de faire passer sur la ménopause. Allez, c'est les bouffées de chaleur, c'est la ménopause et ainsi de suite.
La ménopause.
Oui, en l'occurrence, c'est la bondo. Et c'est justement là où il faut changer la mentalité des médecins et des cardiologues aussi, c'est de dire, eh bien voilà, c'est peut-être une pathologie cardiaque, et à ce moment-là, avoir le courage de demander des examens complémentaires que l'on ne demande pas et que l'on ne demande pas assez vite, et en particulier une épreuve d'effort qui permettrait sans doute d'apporter la vérité.
Donc Anna doit demander à son médecin de lui faire passer un test d'effort. Claire Monnier-Veillé, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, alors en fait... Je voulais aussi expliquer à cette dame que les bouffées de chaleur en question donnent une activation d'un système nerveux qui est pas sympathique, le système nerveux sympathique qui accélère la fréquence cardiaque et qui peut donner des palpitations. Donc là, on sait que 5 bouffées de chaleur par jour est associé à un petit sur-risque d'accident coronaire et vasculaire cérébral et d'hypertension. Donc pour cette dame, effectivement, je lui ferai à Lille en tout cas, je préfère faire une échographie d'effort. D'accord. Car on voit à la fois le muscle cardiaque se contracter, on a l'électrocardiogramme à l'effort, et c'est plus discriminant qu'une épreuve d'effort classique chez une femme. On peut passer à côté. Et je leur donne également, comme madame est fumeuse, je lui fais également un échodoppler des vaisseaux du cou et des membres inférieurs pour rechercher la plaque d'athérome, car quand on en a en périphérie, généralement, on en a également au niveau du cœur.
Mais là, voilà. On est face à un problème quand même de taille. C'est pas le patient qui réclame des examens spécifiques. On peut pas se pointer chez son médecin et dire, voilà, il faut me faire tel test, docteur.
Écoutez, ça commence à venir.
Oui.
Dans ma patientèle de patientes, j'ai des femmes qui viennent, elles ont littéralement harcelé leur médecin traitant. Ça peut passer par la gynéco, qu'elle se gêne pas, m'envoie la lettre. Et même, il y a des femmes qui viennent en acceptant de payer le tiers payant. C'est-à-dire qu'elles viennent sans la lettre du médecin. Parce qu'elles ont compris. En fait, je pense qu'il faut arrêter de prendre les femmes pour des quiches. Elles ont parfaitement compris les symptômes, la maladie, les traitements. Et l'objet, c'est vrai que l'objet du livre à la fin, le dernier chapitre qu'on a coécrit avec Rika Etienne, parce qu'il faut vous dire que j'ai pas écrit toute seule le livre, bien, c'est je prépare ma consultation avec mon médecin. Et on met en alerte ces femmes sur les symptômes, sur les facteurs de risque, et elles préparent elles-mêmes leur consultation.
Ce qu'on entend aussi dans le témoignage d'Anna, docteur Fabiani, c'est que on associe beaucoup ça à du stress. Hein. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages aussi dans votre livre, Claire Mounier-Veillé. Ces patientes-là, on leur répond toujours, c'est le stress.
Alors, c'est le stress, mais le stress a une partie importante aussi. D'abord parce que les femmes sont sensibles au stress, de plus en plus sensibles au stress, ne serait-ce que par l'environnement de la vie moderne. Et puis parce qu'elles ressentent vraisemblablement plus que les hommes, en quelque sorte, les conséquences neurologiques du stress et la sécrétion d'hormones qui est liée au stress. Parce que quelque part, le stress, ça produit quand même de l'adrénaline, et l'adrénaline, c'est quand même pas bon pour le cœur. Voilà. Pour compléter ce que disait Claire il y a un instant, je vous rassure tout de suite, les femmes ne sont pas encore allées voir le chirurgien pour leur demander de l'opérer, de les opérer spontanément, je vous rassure.
On n'y est pas encore. Est-ce une question qui nous parvient par Facebook? Monique nous demande ceci. Est-ce le signe d'un risque d'infarctus si un traitement par ventilation nocturne aggrave la fatigue chronique?
Alors là,
Claire Monnier-Veillé.
Alors si la madame est ventilée, soit c'est pour un syndrome d'apnée du sommeil, et dans ces cas-là, corriger une apnée du sommeil par un appareillage nocturne, c'est quelque chose qui, au contraire, va réduire le risque d'accident coronaire et d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est... Non.
Jean-Noël Fabiani.
Oui, ça change absolument tout. Il faut absolument que, justement, les femmes, surtout les femmes obèses, chez qui on dépiste une apnée du sommeil, il faut absolument les appareiller, car ça va changer leur vie.
Allez, il est 10h33 sur France Inter. Il est temps de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu. Alors voilà.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste qui est en duplex en direct de Toulouse ce matin. Et vous avez un souvenir marquant à nous raconter, Baptiste.
Oui, je me souviens, il y a quelques années, je suis alors jeune médecin remplaçant et c'est un jeudi, il est 7h30 du matin et je reçois un message, c'est une jeune médecin qui est très douce, très attentive, que j'ai déjà remplacée, me demande d'assurer ses consultations médicales au pied levé. Mmh. Et donc il est 8h quand je gare mon petit vélo devant son cabinet où poirote déjà une petite dizaine de patients qui sont arrivés en avance. Bon, je suis là, je dis bonjour, le docteur Serena n'est pas là, elle s'est blessée, elle s'est fait très mal et j'ai dit ça en farfouillant dans mon sac pour sortir les clés. Et je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je crois que j'aurais préféré quelque chose de plus humain qu'un banal. Ah, mais il y a quand même un docteur, hein. Parce que c'est sympa d'essayer d'être un soignant bienveillant, mais le coup de ne même pas demander des nouvelles du docteur, ça me reste en travers de la gorge. J'y repense encore des années après. Je veux dire, le docteur Juliette, elle était géniale. Elle était à l'écoute, présente, concernée. Et cette nuit-là, elle était tombée sur la tête en s'occupant de son petit et elle est aux urgences où elle attend de passer un scanner cérébral. Pourtant, clairement, son état, ça ne les intéressait même pas. Alors, je me souviens, je suis sur le trottoir et je dis... Alors, avant tout, on va ensemble souhaiter un bon rétablissement au docteur Juliette. À trois, on le dit ensemble. Allez, un, deux, trois. Et je me souviens, ils ont répété en chœur, bon rétablissement au docteur Juliette. Sur le trottoir, à 8h du matin. Et je n'oublierai jamais, parce que parfois je me dis, je peux soigner 30 ans au même endroit. Accompagner des familles, tenir dans mes bras les bébés de femmes que j'ai moi-même tenues dans les bras 30 ans plus tôt, je peux m'investir comme jamais auprès de ces familles. Si je meurs demain, ils chercheront sur l'annuaire un médecin dans le coin et c'est tout. Alors, parfois, on essaie de faire bonne figure, mais c'est vrai qu'on se drape dans sa vocation, mais sa blouse, notre blouse, elle ressemble de plus en plus à la bure d'un moine un peu défroqué. Et je crois que c'est la médecine, c'est comme l'amour. Il ne faut pas tout donner à l'autre, car celui qui vit d'illusion, ben, un jour, il finit par mourir de désillusion. Donc, je veux dire aux patients... Soyez aussi attentifs à ceux qui vous soignent. Et je veux dire aux soignants, faisons ce qu'on peut à la hauteur de nos moyens, dans le respect de nous-mêmes, parce que tout ça, ce ne sont que des histoires d'êtres humains. Alors, répétez après moi, 1, 2, 3, la vie est belle.
La vie est belle et bon rétablissement au docteur Juliette. C'est bien Juliette, hein, c'est pas Serena finalement alors.
Oui, c'était le prénom, j'ai changé un petit peu.
À force d'anonymiser vos histoires, vous emmêlez les pinceaux. Est-ce que vous nous conseillez de prendre des nouvelles de notre médecin à chaque consultation, Baptiste Beaulieu ?
Non, mais quand un patient le fait, ça me fait toujours très chaud au cœur quand il me demande comment je vais.
Et vous lui répondez sincèrement, pour de vrai ?
Non, je mens parce que c'est pas ses problèmes et que je veux pas lui en rajouter sur le dos, mais ça me fait toujours plaisir.
Isabelle Motreau, je crois qu'on tient là une idée de sujet, non ? Pour Cosette, prenez des nouvelles de vos médecins.
Voilà, exactement, c'est une très 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 bonne idée, je trouve.
Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu. On retrouve bien sûr cette chronique. Alors voilà, en podcast et en réécoute sur franceinter.fr. Et on reprend nos échanges sur la santé cardiaque des femmes dans un instant. Ce sera juste après Balthazar sur France Inter. Friday late night, there it is. A soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man. And I don't see it clearly. Must have had too much, but I... If you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother, I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of her, I can never let you down again. It's all about trust. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Oh, can we call it quits? And is this what I need to take away? This checkmate in my mind. Belge et chante en anglais I'm never gonna let you down again. C'était Balthazar sur France Inter.
Grand bien vous fasse. Dorothée Barba.
L'épreuve les a soudés davantage. Il y a 3 ans à peine, ce jeune couple a vécu l'improbable. À l'âge de 31 ans, Sybille Mauger fait une crise cardiaque sous les yeux de son compagnon. Elle raconte les premiers signes incompréhensibles.
En début d'après-midi, j'ai ressenti une première douleur au niveau de la poitrine, une douleur soudaine, très forte, comme si on mettait un coup de poing, en fait. Ensuite, j'ai été réveillée dans la nuit par une douleur au niveau du bras gauche, une douleur qui partit de la main jusqu'à l'épaule. Donc, j'ai pas prêté attention à cette douleur au départ, donc j'ai commencé à taper sur mon bras, à secouer mon bras.
C'est son compagnon qui comprend très vite.
Moi, c'est quand elle m'a dit qu'elle avait mal au bras gauche. J'avais eu mon grand-père qui avait eu une crise cardiaque il y a 3-4 ans avant et qui n'avait pas arrêté de me parler de sa douleur au bras gauche, le bras gauche. Donc en fait, le moment où elle m'a dit ça, c'est le moment où je me suis dit « Ouh, ça annonce rien de bon ».
Un extrait du journal de France 3, témoignage donc d'une femme victime d'une crise cardiaque à 31 ans. Cette histoire de bras gauche, alors vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est entré dans l'inconscient collectif. Si j'ai mal au bras gauche, peut-être est-ce une maladie cardiaque. Le problème justement, c'est que les symptômes, notamment chez les femmes, sont parfois différents. Jean-Noël Fabiani.
Les symptômes sont parfois différents, mais on ferait quand même le bras gauche, c'est bien quand sûr. Même une réalité. Mm-hmm. Et c'est plus le bras gauche que le bras droit. À chaque fois, c'est toujours...
Je crois que le cœur est à gauche, non, c'est ça?
Non, c'est pas pour ça. Mm-hmm. Mais c'est un peu pour des raisons nerveuses, d'innervation, qui, comme pour l'estomac, d'ailleurs, dont on parlait il y a un instant, eh bien, font qu'il y a une innervation qui est croisée, en quelque sorte, entre les nerfs du cœur et le nerf de l'épaule gauche, en l'occurrence, ou les nerfs de l'estomac. Donc, c'est ça la raison. Mais c'est vrai qu'une douleur vers la mâchoire ou vers le bras gauche est quand même très significative et très évocatrice, surtout, d'un problème cardiaque.
Je me tourne vers Isabelle Motreau, directrice de la rédaction du magazine Cosette, notre partenaire pour cette émission. Un article passionnant, « Femme au bord de la crise cardiaque », à lire dans le nouveau numéro de Cosette. Il est question de médecine bikini. De quoi s'agit-il?
Oui, Anna Cuxac, qui a écrit ce papier, s'est intéressée évidemment à d'autres thèmes assez approchants et elle a lu l'ouvrage de Claudine Julien qui est une généticienne et qui parle de médecine bikini en effet. Alors la médecine bikini c'est cette médecine qui consiste à et qui a été pratiquée pendant très longtemps à soigner d'abord les organes reproducteurs des femmes, c'est-à-dire utérus, vagin, sein, etc.
Enfin, tout ce qui est sous le bikini
quoi. Voilà. avant le reste. Vous voyez, c'était un peu une espèce de réflexe comme ça, voilà, des médecins et des femmes aussi, hein, des femmes médecins également. Heureusement, j'ai l'impression que ça commence à se résorber un petit peu. Ça.
Les choses commencent à changer, oui. Claire Monnier-Veillé, vous confirmez ?
Oui, les choses commencent à changer. On investit également avec la Fédération française de cardiologie beaucoup d'argent pour la recherche cardiovasculaire chez les femmes. On a notamment une étude WAMIF sur l'infarctus de la moins de 55 ans avec Stéphane Manzo pour connaître les caractéristiques, les spécificités des symptômes et de la maladie des traitements. On a une autre étude sur quelle est l'ordonnance de sortie chez les femmes en sortie d'infarctus, parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont moins bien traitées. Là encore, il y a des préjugés sur l'ordonnance de sortie. Et puis, on a un score de risque avec la cohorte de la MGEN pour définir la probabilité qu'aura une femme, dans sa vie de femme, de faire un infarctus du myocarde en fonction de l'exposition aux facteurs de risque.
C'est vrai que c'est un combat pour la parité qui est assez méconnu, hein, celui de la recherche scientifique. On le disait en début d'émission, Jean-Noël Fabiani, la plupart des expériences de recherche médicale sont menées sur des hommes.
C'est vrai aussi par... excès de facilité, quand on lance un travail de recherche, on exclut tout de suite les femmes en âge de procréation.
C'est parce que ça risque de biaiser la recherche.
Non, parce qu'il y a le fameux syndrome thalidomide dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a trop peur qu'il se produise un effet néfaste sur une femme qui aurait un fœtus ou une grossesse en cours d'évolution. Et donc, on a peur de ça. Et donc, on élimine systématiquement, à chaque fois, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. Donc, c'est vrai que beaucoup d'études se centrent sur l'homme, évidemment, par exclusion.
Une question au passage, tenez, sur le cœur artificiel, qui est une fierté française, hein, on le sait bien. Des femmes ont-elles déjà bénéficié d'un cœur artificiel, Jean-Noël Fabiani ?
Pas maintenant, pas encore. Et pourquoi ? Uniquement pour une question de taille. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir mettre une prothèse dans la poitrine de quelqu'un. Or, on en parlait tout à l'heure, différence entre les hommes et les femmes. En général, les poitrines des femmes, je parle de l'intérieur de la cage thoracique, est plus petit que ceux des hommes.
Et ça peut sembler invraisemblable. Pourquoi ne fabrique-t-on pas une prothèse, un cœur artificiel plus petit pour les
bien,
femmes ?
Parce que on va sûrement y arriver, mais ça n'a l'air de rien. Vous vous souvenez de votre téléphone portable, il y a 20 ans, comment il était ? C'était un énorme truc comme ça. Maintenant, c'est un tout petit machin comme ça. On va y arriver, les ingénieurs vont arriver
à le faire plus petit. C'est plus compliqué de fabriquer petit,
c'est
ce que vous dites.
Mais c'est plus difficile de fabriquer petit, plus fin.
Ouais. Non. Je ne suis pas convaincue,
attendez.
Isabelle Motron.
Lorsqu'il s'agit de mettre en place toute une électronique très sophistiqué en double, pour au cas où un circuit tomberait en panne, immédiatement il y a des problèmes de place qui s'imposent.
Oui. En France, on est même très en retard dans la recherche cardiovasculaire des femmes, parce qu'aux États-Unis, vous avez l'American Heart Association, où il y a tout un programme, notamment il y a le registre Y sur l'infarctus du myocarde. En Hollande, vous avez Angela Maas, qui a financé tout un service, tout un département sur les spécificités hormonales impliquant la recherche cardiovasculaire. Donc en France, il faut vraiment qu'on se secoue, mais c'est un de nos objectifs à la Fédération française de cardiologie, c'est de structurer cette recherche cardiovasculaire des femmes en partenariat avec notamment la société française.
Une question d'une auditrice qui nous parvient par courriel. Ma maman de 68 ans a été hospitalisée il y a 15 jours pour une pneumopathie. Et pour finir, il s'agit d'une insuffisance cardiaque. Elle va être opérée cette semaine, nous dit-elle. Il a fallu 2 semaines pour que les médecins fassent le bon diagnostic. Nous avons été étonnés de cette confusion. Est-elle fréquente, Claire Monnier-Veillé ?
C'est l'auscultation pulmonaire, on va entendre des râles crépitants et on n'a pas forcément pensé que ça pouvait être un œdème pulmonaire, donc de l'eau dans les poumons due à une dysfonction du cœur et des valves cardiaques. Et voilà, donc cette dame a dû passer par la case urgence médicale. Elle a une radio de thorax où il devait y avoir un poumon blanc et puis on n'a pas forcément pensé à faire une échographie cardiaque parce qu'on s'est orienté vers un mauvais diagnostic pour peu qu'elle ait ce qu'on appelle un œdème pulmonaire surinfecté, ça arrive souvent. Et là, ça peut mimer une infection pulmonaire, mais c'est réellement le cœur sous-jacent qui est la cause de cette pathologie.
Quand vous dites que ça mime une infection pulmonaire, c'est que ça ressemble beaucoup...
Ça ressemble, c'est-à-dire que l'œdème pulmonaire, quand on a de l'eau dans les poumons, ça peut aussi s'infecter. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez avoir un œdème pulmonaire surinfecté.
Voilà. Jean-Noël Fabiani ?
Oui, mais vous savez, le diagnostic, c'est quand même quelque chose de très difficile en médecine. Ne jetons pas la pierre à une erreur de diagnostic. C'est parfois très difficile pour des tas de raisons, et on vient d'en évoquer quelques-uns, parce que les signes ne sont pas nets. C'est très difficile d'arriver à un bon diagnostic tout de suite. Mais avec un petit peu d'accroche et un petit peu de temps, en général, on redresse le diagnostic pour y arriver. Alors, il faudrait mieux que ce soit moins de 15 jours, si possible.
Non, mais simplement, là on parle des maladies cardiovasculaires des femmes, et dans le livre, il y a aussi un chapitre qui est consacré aux hommes, parce que c'est pas un livre de féministes. C'est important de le souligner. On a parlé de la migraine des hommes.
C'est dommage, on a parlé
de la dépression des hommes. On a parlé de l'ostéoporose des hommes. Pour dire, voilà, chez les hommes, il y a des maladies qu'on considère être surtout fréquentes chez les femmes. Mais nous, les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires qui font l'objet de préjugés. Mmh. Et c'est important de dire, c'est pas aller les femmes pour les femmes. On défend les femmes coûte que coûte.
C'est pour la santé de tous. Jean-Noël Fabiani.
Et comme disait l'auteur, il n'est qu'un sexe faible, le sexe masculin.
Ok, ça c'est pour vous. Une auditrice nous écrit ceci par courriel. J'ai 47 ans, je suis sportive. 4 à 5 heures de sport par semaine, une alimentation saine, pas de surpoids, pas de tension, pas de cigarettes, pas de cholestérol. Et pourtant j'ai un stent. Alors pourquoi ? C'est l'occasion de redire que les facteurs de risque ne sont que des facteurs qui augmentent la probabilité d'avoir une maladie cardiaque. Évidemment, ça n'explique pas toutes les maladies cardiovasculaires.
Clairement, il y a des causes beaucoup plus rares de maladies athéromateuses, notamment des maladies auto-immunes qui peuvent interférer. Elle a peut-être eu un stent aussi parce qu'elle a fait une dissection coronaire, donc la coronaire qui se dédouble, qui fait une sorte de poupée russe. Et dans certaines formes de dissection coronaire, on est amené à mettre des stents coronaires. Donc voilà, c'est pas... On a aussi des maladies, on appelle ça les maladies de la coagulation, qui font que l'artère se bouche et qu'on va la réouvrir. Donc voilà, c'est malheureusement, mais c'est rarissime aussi, il ne faut pas affoler nos auditeurs.
Le stent concerne aussi, je crois, cette auditrice qui nous appelle. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le soin de nous téléphoner. Vous avez un stent, racontez-nous votre histoire.
Oui, au mois de mars, j'ai eu des douleurs derrière le sternum. Et puis ça me serrait dans la mâchoire, donc j'ai pensé au cœur tout de suite. J'ai plus de 70 ans, j'ai pas de facteur de risque comme l'auditrice précédente, pas d'obésité, je ne fume pas, etc. Et bon, j'ai insisté beaucoup pour qu'on cherche. Donc on m'a fait une gastroscopie.
Il a fallu insister beaucoup.
Regarder les poumons, pardon.
Il a fallu insister beaucoup pour qu'on cherche, dites-vous.
J'ai insisté, quoi. J'ai dit voilà, ça c'est mon cœur. On m'a dit, je suis stressée, donc on m'a dit le stress, mais j'ai vite coupé court. Et j'ai passé des examens à leur reprise de sang, électrocardiogramme, échographie cardiaque, etc. Parce que je partais en voyage, donc je ne voulais pas partir avec ce souci. Mmh. Et tout était normal. Et on m'avait prescrit un scanner coronaire à la rentrée du voyage. Et à la rentrée du voyage, j'avais une artère bouchée. On m'a mis des stents. Mais depuis, j'ai toujours mal. Je suis retournée aux urgences. Et on me dit qu'il n'y a rien et qu'il faut que j'attende. Alors je suis un peu inquiète quand même. Voilà.
Je comprends
mon histoire.
Votre inquiétude, Jean-Noël Fabiani.
Écoutez, oui, il faut refaire des examens pour absolument éliminer un problème cardiaque qui serait persistant. Mais il est sûr que, dans certains cas, il y a des douleurs qui persistent qui ne sont pas d'origine cardiaque. Donc, c'est difficile de régler cette question-là immédiatement.
Bien sûr, non, c'est pas une consultation en direct à la radio.
Donc,
mais ça
il faut être absolument certain qu'il n'y a plus de douleurs d'origine cardiaque. Et ça, il y a des examens qui permettent de le dire. Ensuite, il faut un petit peu investiguer pourquoi cette dame, éventuellement, peut avoir des douleurs.
On a quand même l'impression que les témoignages qui nous parviennent disent beaucoup qu'il a fallu insister pour obtenir un examen approfondi. J'imagine que ça ne vous surprend pas, Claire Monnier-Veillé.
Non, c'est ma pratique quotidienne. Mais vous avez, quand on fait la formation, parce qu'il y a les médecins une fois thésés, leur thèse de médecine, on leur fait des formations médicales le soir, le week-end. Et c'est vrai qu'on a envie de multiplier ces formations, parce qu'une fois qu'ils sont formés, ils vont gérer les femmes de la même manière que les hommes. C'est un problème d'accès à l'information. Donc on utilise aussi les congrès médicaux de plus haut niveau. Donc voilà, je pense que c'est notre rôle aussi de former nos jeunes étudiants en médecine sur les spécificités du risque. Mais pour compléter ce que disait Jean-Noël sur cette dame, tout à l'heure je vous parlais des petites routes et des petites communales. C'est très fréquent que les femmes gardent des symptômes résiduels parce qu'elles ont aussi les bébés artères qui sont malades, les petites artérioles malades. Et auquel cas, on va optimiser le traitement médical après avoir vérifié, bien évidemment, que le fameux stent ne s'était pas rebouché. Mais si on leur fait un test d'effort qui est positif, alors que la grosse coronaire est normale, il faut pas oublier que ces femmes ont aussi une maladie distale des coronaires pour lequel on va optimiser le traitement. Donc ça, c'est vraiment très propre aux femmes.
J'ai lu dans votre livre, Claire Monnier-Veillé, que chez une femme victime d'infarctus, il y a une différence de pronostic frappante selon que son médecin est un homme ou une femme. Comment expliquer ce phénomène ?
C'est une grosse étude américaine, effectivement, qui est sortie sur le sujet. En fait, ça fait peut-être un peu féministe de dire ça.
Mais n'ayez pas peur de vous.
Je vais oser.
Tout va bien se passer.
C'est vrai que c'est la femme... D'abord, il y a un problème d'identification à la femme qu'on a en face de soi. Quand on soigne... on a, en tout cas moi je le fais dans ma pratique professionnelle, on se met aussi à la place de la femme. On a un instinct féminin. On a une façon de prendre en charge globalement comme on prend en charge nos familles. C'est-à-dire qu'on est global. Et c'est vrai qu'on va peut-être pas aller droit au but, mais on va prendre en compte le cœur, mais on va prendre en compte l'aspect psychologique, on va prendre en compte l'aspect pulmonaire. Voilà. Effectivement, c'est vrai, c'est un constat d'étude. Hein, on est dans la globalité du soin. Dans mon service aussi, je pourrais dire que on a des médecins hommes et des médecins femmes dans le service. Et c'est vrai que les filles, on est plus, un peu plus dans la globalité du soin, dans le parcours coordonné multidisciplinaire. Mmh. C'est vrai.
Isabelle Motreau, ça vous fait réagir, cette manière que Claire Mounier-Veillé a de s'excuser presque d'être féministe?
Bah oui, oui, parce que le féminisme, c'est une étape. Hein. Le but, c'est que tout le monde, hommes et femmes, soient égaux et heureux et avec un cœur en état de marche, quel que soit leur sexe. Non, ce qui est frappant, c'est que effectivement, on commence à en parler de cette médecine différentielle. Mm-hmm. Hein. C'est-à-dire
selon
que
le genre.
De plus en plus, on se rend compte que, eh bien, vous le disiez vous-même, et ça, moi, je trouve ça révoltant, les apprentis, les médecins qui font des études n'apprennent pas les spécificités liées au sexe féminin et masculin. Et pendant des années, je ne vais pas revenir sur le clitoris, on en avait fait une émission il y a quelques temps ici, mais voilà, c'était un organe qui n'existait pas. Là, c'est un cas vraiment extrême, mais il y a quand même une volonté, ou en tout cas une absence d'attention aux différences liées au genre.
Ça devrait être une priorité de santé publique, selon vous, la santé cardiaque des femmes, Claire Mounier-Veillé.
Mais écoutez, on a lancé un manifeste que je vous invite à signer sur le site, qui s'appelle « Alerte rouge sur le cœur des femmes, agir plutôt que subir, déclarons l'état d'urgence ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on milite avec la Fédération française de cardiologie depuis à peu près 7 ans. Sur cette santé cardiovasculaire des femmes. On a fait une enquête IFOP auprès des Françaises. Il y a une enquête de Santé publique France qui va sortir, qui est clôturée fin juin. Et on s'aperçoit que 36% des femmes savent aujourd'hui, en 2019, que les maladies cardiovasculaires peuvent les concerner. Donc ça veut dire
que ça a progressé,
on a avancé
un petit peu
en 7 ans, mais il faudra 20 ans. Aux États-Unis, c'est 20 ans de recul avec Laurie Mosca. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement un vrai état d'urgence. C'est pas un état d'urgence féministe. C'est, on est tous responsables, qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, autre professionnel de santé, mais surtout le citoyen. C'est notre santé, c'est la nôtre, c'est pas celle des autres.
Hein. Voilà, la santé cardiaque est sous-estimée par le personnel médical, mais aussi par les femmes elles-mêmes. Est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres qui sont assez frappants, Claire Mounier-Veillé ? Une femme sur trois est concernée ?
C'est une femme sur trois, 76 000 décès par an de maladies cardiovasculaires. Donc c'est énorme. Donc sur 400 morts par jour, la moitié, plus de 53% sont des femmes. Donc voilà. On doit agir et on doit surtout, quand on a la chance d'avoir l'information, l'objectif c'est qu'on est très réseau copine, réseau famille, et bien on doit en parler autour de nous. C'est, moi j'appelle ça la prévention colibri, c'est-à-dire qu'on passe le message et avec cette façon de travailler, peut-être qu'on va arriver à quelque chose d'efficace.
Comme le petit colibri qui fait sa part contre l'incendie en allant piocher quelques
fait.
Gouttes d'eau dans
c'est
l'océan.
C'est l'incendie du cœur des femmes, on va dire.
Exactement. Jean-Noël Fabiani, je me souviens de ce spot de la Fédération de cardiologie. On voyait un homme d'une cinquantaine d'années, assez costaud, disons, en train de danser avec une jeune femme frêle de 30 ans. Et évidemment, on ne s'attendait pas à ce que ce soit elle qui s'effondre, victime d'un infarctus. Tout est là, hein, finalement.
Exactement, tout est là. Tout est là, mais c'est vrai que c'est vraiment un problème de santé publique. Je voulais quand même rappeler qu'il y a une dizaine d'années, avec Daniel Herman, on avait créé un prix pour favoriser justement la recherche sur le cœur des femmes et que ça continue à aller dans ce sens-là.
Le prix existe toujours aujourd'hui.
Bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les trois.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Pour ce beau travail de prévention, de pédagogie qui est important pour que les préjugés petit à petit s'évaporent. On retrouvera Cosette dans les kiosques, on le disait.
Mercredi.
Après-demain. Isabelle Motreau avec cet article sur les femmes au bord de la crise cardiaque. À la une de Cosette.
À la une de Cosette, c'est secret de famille et si on faisait tout péter.
Qu'est-ce qu'on fait péter? Les secrets de famille?
Ben oui, les secrets de famille. Vous trouvez pas qu'à un moment donné, il faut un peu aérer là?
Faut-il tout se dire?
Vaste
sujet.
Vous allez savoir.
Mon combat pour le cœur des femmes. Votre livre, Claire Mounier-Veillé, disponible aux éditions Marabout avec beaucoup de témoignages. Surtout, j'insiste là-dessus. Un mot rapidement, tenez sur Lila. Vous pouvez me raconter l'histoire de Lila très vite?
son mari ne la croit pas, personne ne la croit, elle insiste. Lila, 32 ans,
qui baignait son gamin de 18 mois, qui a eu mal, qui est allé fumer pour se déstresser, et qui finalement a fait un vrai infarctus avec un retard de 3-4 heures, et qui, Lila, était très anxieuse parce qu'elle se demandait comment elle pourrait répondre aux attentes de son mari sexuellement parlant, et elle avait une live vest, c'est-à-dire une veste pour choquer le cœur, et au moins pendant un mois, deux mois, Lila ne pouvait pas avoir d'activité sexuelle. Elle m'a dit, mais mon mari ne va pas tolérer. Ouais. Et le mari a dit, mais comment je vais faire?
Ça, ça vous donne pas envie d'être féministe, par
exemple? Si, mais bon. Voilà. Bon, vous m'avez demandé de le dire, je le dis à l'antenne.
Lila,
les réactions masculines comme ça, c'est inacceptable.
Elle est dans le livre avec beaucoup d'autres patientes et c'est passionnant. Je conseille aussi le dernier ouvrage de Jean-Noël Fabiani. C'est une BD aux éditions Les Arènes BD. L'incroyable histoire de la médecine. Des dessins signés Philippe Bercovici. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et merci à Baptiste Beaulieu, bien sûr. Dans un instant, ce sera Nagui et sa bande originale sur France Inter.